Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé.
C'est pas le temps de faire ça.
C'est l'heure de retrouver Loïc Tassé. Bonjour Loïc.
Salut Vincent.
Alors on commence en parlant de cette histoire de prison. C'est une longue peine de prison pour un homme d'affaires canadien.
Oui, en fait, c'est quelqu'un qui a la double nationalité chinoise et canadienne. Il s'agit de l'homme d'affaires Xiao Jianhua. Et en fait, c'est un gars qui a une histoire un peu particulière. Il avait attiré l'attention il y a 5 ans à Hong Kong, alors qu'il avait été pris en otage, qu'il avait été capturé par des services spéciaux chinois. Et qu'il avait été emmené de force sur le territoire chinois, le territoire, j'entends, qui était contrôlé à ce moment-là par le Parti communiste chinois. Et c'est important ça, parce qu'évidemment, il y avait des photos qui étaient sorties, on l'avait vu en chaise roulante, qui était poussée par des gens des services spéciaux. Ça avait été un des éléments qui avait généré toutes les grandes manifestations à Hong Kong, les manifestations pour la démocratie, parce que subitement, les Hongkongais se sont rendus compte qu'ils pourraient être facilement extradés en Chine continentale pour toutes sortes de choses. Et ils voulaient surtout pas que ça arrive. Malheureusement pour eux, 3 ans après, il y a eu la loi sur la sécurité nationale édictée par le gouvernement de Pékin. Et effectivement, de nos jours, les Hongkongais peuvent être extradés pour un oui et pour un non en Chine continentale. Les étrangers aussi, hein, s'il n'y a pas que les Hongkongais qui sont sujets à ça. Il suffit en réalité d'avoir critiqué Xi Jinping, d'avoir contesté un certain nombre de politiques du gouvernement chinois. Et voilà, on peut se retrouver sujet à cette loi sur la sécurité nationale. Ça, c'est la première raison pour laquelle ce qui vient d'arriver à Xiao Jianhua est intéressant. On ne l'avait pas vu depuis 5 ans. Et donc, il a reçu un jugement. On a dit cependant qu'il avait coopéré, et c'est quelqu'un qui en fait est à la tête d'un holding financier, il y avait plusieurs entreprises, il vaudrait 6 milliards de dollars à lui seul. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a imposé une très très forte amende aussi à son holding financier, 8,1 milliards de dollars. Et lui-même, comme on le disait tout à l'heure, a été en prison parce qu'il aurait coopéré. Parce que sinon, c'était la peine de mort à laquelle il faisait face. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir aussi que la chasse à la corruption se poursuit en Chine. C'est une chasse qui a été amorcée en 2013 avec l'arrivée au pouvoir véritablement de Xi Jinping. Et malheureusement, ce dont on s'est rendu compte en Chine, c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est que ceux qui sont mis en prison sont comme par hasard, en très très grande majorité, des gens qui sont proches des opposants de Xi Jinping, c'est-à-dire des gens qui sont proches en particulier de l'ancien président Jiang Zemin. Et donc, si tu veux, c'est un symbole, encore une fois, que l'emprise de Xi Jinping se renforce. Et il ne faut pas voir un hasard dans la date où sa condamnation a été faite. C'est que probablement on attendait la fin des travaux à Beidaihe. On sait que Beidaihe, c'est une ville balnéaire sur le bord du Pacifique. Et c'est là que se réunissent tous les étés les dirigeants chinois. Et donc, moi, je pense que ça envoie encore un signe, parmi d'autres, que Xi Jinping a bien en main le parti et que le parti va accepter qu'il fasse un troisième mandat. C'est un signe de ça aussi. Je pense que l'affaire est pas mal dans le sac pour Xi Jinping.
Justement, parlant de Xi Jinping, il sera du prochain G20, mais on en parlait dès l'invasion de la Russie en Ukraine. On parlait du G20 qui approchait en Indonésie. On se demandait est-ce que Vladimir Poutine allait y être, ça allait créer un certain certain chaos. Mais il y sera.
Oui, c'est ce qu'a annoncé Joko Widodo, qui est le président de l'Indonésie. Et il a déclaré que Xi Jinping serait là en même temps que Vladimir Poutine. Bon, pour Xi Jinping, c'est normal. C'est quand même la Chine qui, en parité de pouvoir d'achat, est la première économie au monde. Et puis, même s'il y a beaucoup de différends avec la Chine, il n'y a pas d'animosité comme avec la Russie. La Chine n'a pas envahi pour le moment un territoire qui lui appartenait pas. Par contre, il y a une rencontre qui a été prévue entre Xi Jinping et Joe Biden en novembre. Et évidemment, les deux vont discuter de Taïwan. Ça va être très, très intéressant à suivre. Mais le clou du spectacle, si je puis dire, ça va être Vladimir Poutine. Et tout le monde se demande quelle sera la réaction du G20 face à Vladimir Poutine. Il est sûr que des gens comme Xi Jinping vont le défendre. Mais la grande majorité des gens qui sont là vont le condamner. Et il va y avoir trois groupes. Il va y avoir les pro-Vladimir Poutine, les pro-Russie, dont la Chine. Il va y avoir des gens qui vont garder un silence gêné, probablement, dont l'Inde. Et puis, il y a la vaste majorité des démocraties qui vont condamner Vladimir Poutine. Alors, ça va être très intéressant de voir comment Vladimir Poutine va réagir, parce que on n'a pas l'habitude de tenir tête à Vladimir Poutine en Russie. On n'a pas l'habitude de lui dire ses quatre vérités. Et je pense bien que c'est ça qui va arriver au G20, que les dirigeants vont arriver avec un certain nombre de dossiers, de faits, et vont lui dire, encore une fois, ses quatre vérités à Vladimir Poutine. Je ne suis pas sûr qu'il prenne ça de manière très relaxe.
Non, il fait pas beaucoup de voyages. En plus, il semble complètement paranoïaque, pas en grande forme non plus.
Oui.
Ce sera peut-être pas son avantage. Il a l'air juste bourru à se faire crier des bêtises, mais disons critiquer alors qu'il aura peut-être l'air faible.
Oui, jusqu'à présent, il a dit qu'il irait. Il faut qu'il y aille, ne serait-ce que pour la politique intérieure en Russie, pour la propagande intérieure. Mais si jamais il s'aperçoit qu'il risque d'y avoir un vote très fort contre la Russie, s'il s'aperçoit que son image risque d'être très égratignée, il se pourrait qu'il décide à la dernière minute, sous n'importe quel prétexte, de ne pas se rendre au G20. Mais pour le moment, il a dit qu'il irait au G20.
Ce sera assurément très suivi, ce dossier-là. Parlons de Donald Trump, Loïc, parce que la question des affidavits, publier les affidavits, est-ce qu'on les publie, est-ce qu'on les publie pas, ils seront rendus publics. Il faut tout simplement prendre le temps de retirer les informations secrètes.
Oui, c'est ce qu'a dit le juge Bruce Reinhardt. Et lui, il dit, écoutez, il faut mieux que les gens aient le plus d'informations possibles sur ce dossier-là, parce que quand même, c'est une descente policière historique qui a eu lieu chez un président. On n'a jamais eu ça dans l'histoire des États-Unis. Mais, a-t-il dit, je comprends que dans cet affidavit qui explique pourquoi donc on a fait cette descente, il y a des informations qui sont des informations extrêmement sensibles, qui sont des informations qui relèvent de secrets de sécurité nationale. Donc, je donne, a-t-il dit, jusqu'à jeudi midi prochain aux gens, au gouvernement, pour me soumettre un texte d'affidavit qui a été expurgé de tout ce qui pouvait être information trop un peu compromettante pour le gouvernement, dans le sens où un peu des informations qui donneraient des indications sur la politique de sécurité des États-Unis. Donc, ça a beaucoup étonné, semble-t-il, le ministère de la Justice, qui ne veut pas que ces informations sortent, parce que il y a aussi, semble-t-il, dans cet affidavit, des informations sur les négociations entre l'équipe de Donald Trump et le ministère de la Justice pour recevoir les documents. Et ça fait partie, ça aussi, de l'acte d'accusation. Et on voudrait surtout pas que l'accusation tombe parce qu'il y a des informations qui ont été révélées en public et qui, finalement, pourraient nuire à la preuve. Donc, ça va être très, très délicat pour le gouvernement américain de publier ça. Et évidemment, le juge Reina a dit, écoutez, je m'attends à ce qu'il y ait des passages qui soient complètement caviardés et qu'on voit rien du tout dans certains endroits. C'est normal, mais quand même, essayez de donner le maximum d'informations là-dessus, tu vois.
D'ailleurs, on comprend que certains restent fidèles malgré tout à Donald Trump.
Ben oui, tu sais, on en parlait hier de Weissenberg, puis on se demandait tous les deux qu'est-ce qu'il avait bien pu dire, quel était le compromis auquel il avait pu arriver avec le gouvernement. Et on dit, il faut rappeler, il a 75 ans, sa santé, dit-on, est fragile. Il a payé une amende de 2 millions de dollars parce que pour évasion fiscale, en fait, et toutes sortes de choses, parce que entre autres choses, il aurait reçu un appartement gratuit de l'organisation Trump, il a oublié de le déclarer, parce que aussi l'organisation Trump aurait payé pour la scolarité de son petit-fils, ça aussi, il a oublié de le déclarer. Mais en tout et pour tout, il a été condamné à 5 mois de prison. S'il a un comportement exemplaire en prison, ce qui va arriver fort probablement, il va faire 100 jours de prison, donc il va sortir assez rapidement. Et il faut savoir qu'il était passible de 15 ans de prison. Donc encore une fois, qu'est-ce qui a été discuté? Ben, le New York Times est sorti avec un certain nombre d'informations là-dessus. Et en fait, ce qui serait arrivé, c'est que Weissenberg serait resté loyal jusqu'au bout à l'égard de Donald Trump, mais il aurait accepté de témoigner dans une quinzaine de dossiers sur l'organisation de Donald Trump. Donc, il n'y a rien qui vise Donald Trump directement, mais par contre, sa compagnie, elle, est visée.
C'est ça, on fait tomber tous les dominos autour, mais Trump est toujours un peu protégé par les autres.
Oui, mais ça se rapproche. Ça se rapproche beaucoup.
Ouais. C'est chaud.
Oui. Je pense qu'il reste autour de lui juste le dernier carré, puis c'est à ça qu'on va s'attaquer. Mais combien ça va prendre de temps? Il y a ça aussi qui joue. Parce que Donald Trump, si on n'arrive pas à ramasser suffisamment de preuves, puis que Donald Trump se fait élire président, ben, il y en a pour encore 4 ans. Facilement. Donc, c'est très difficile, comme situation.
On peut penser aussi, parce que je viens de penser à ça, mais si c'est DeSantis qui devient le candidat et qui gagne, il va pardonner Donald Trump, peu importe ce qui arrive.
Fort probablement. Ouais. Fort probablement aussi. Ce qui pourrait être un excellent scénario pour Donald Trump.
Parlons de la Grande-Bretagne en terminant. Ils doivent faire face à une vague de grève.
Ça va mal en Grande-Bretagne. D'abord parce qu'il y a une inflation qui est épouvantable. On est rendu à 11% par an et le gouvernement dit attention, ça pourrait monter à plus. On parle de 13% par an. Les salaires n'auront augmenté en 2022 que de 4,7%. Donc fait le calcul, il y a un manque à gagner énorme pour les Britanniques. Donc, le gouvernement refuse de négocier des ententes de hausse de salaire avec certaines personnes, entre autres avec les employés du métro de Londres et les employés des services de transport en commun de Londres. Résultat, le métro de Londres est à peu près paralysé. Il y a à peu près une rame de métro tous les 15 minutes, ce qui, pour le métro de Londres, est l'horreur totale. Le service d'autobus est complètement bondé. Il y a beaucoup plus d'autos dans les rues, donc tout est congestionné. Ça va très mal en ce moment à Londres. Et on pense que ça va empirer, parce que les gens ne peuvent pas supporter une inflation comme celle-là. C'est sûr que leur pouvoir d'achat a énormément diminué, mais c'est bien certain que si tu augmentes les salaires, ben, tu vas faire en sorte que l'inflation va continuer à augmenter. C'est une roue qui tourne, ça. Donc, avant qu'un certain équilibre soit atteint, ça va prendre un certain temps, ça peut même prendre des années. Donc, on s'en va en Grande-Bretagne en ce moment vers je dirais plus que des mois, probablement des années qui vont être assez pénibles. Et ça pourrait faire tomber le gouvernement. Les travaillistes en ce moment en Grande-Bretagne sûrement sont en train de se frotter les mains. Mais l'inflation en Grande-Bretagne, elle est pire que dans le reste de l'Europe pour deux raisons très simples. La première, c'est que la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, donc les produits sont exportés sont sujets à de nouveaux tarifs et ils n'ont pas non plus les politiques de subvention, ils ne bénéficient plus des politiques de subvention de l'Union européenne. Et par ailleurs, la Grande-Bretagne a très peu de matières premières, a très peu de ressources énergétiques, et elle est donc frappée de plein fouet par cette inflation. En plus que le gouvernement conservateur a pas mis véritablement de plafond sur les augmentations d'électricité, de coûts de l'électricité en Grande-Bretagne. Donc, l'énergie frappe encore plus la Grande l'augmentation des coûts de l'énergie frappe encore plus la Grande-Bretagne que d'autres pays européens.
Et ça a été un des pays les plus frappés par la COVID dans les deux dernières années. Puis là, ils ont traversé un été de canicule absolument épouvantable, sécheresse. Les terrains sont jaunis partout. C'est pas un été de rêve là, pour les Britanniques.
Non, mais remarque que c'est la même chose ici en Europe. Tu regardes ce qui se passe en Allemagne.
Oui.
Le Rhin, par exemple, qui est quasiment asséché à certains endroits. Ça pose des problèmes de transport très, très graves. L'agriculture, les rendements agricoles risquent d'être extrêmement mauvais en Europe cette année. Tu sais, en France, on en parlait au début de la semaine, il y a une grande sécheresse, oui. Et puis, hop, il s'est mis à pleuvoir, mais trop, et trop rapidement. Alors, ça crée des inondations. Ils ont le pire des deux mondes en ce moment, dans bien des endroits en Europe. Et c'est un effet des changements climatiques. Et là-dessus, il y a des gens qui sortent dans le monde. Par exemple, il y a un article très intéressant de quelqu'un qui est spécialisé dans les changements climatiques qui dit, attention, là, on est dedans, ces changements climatiques arrivent beaucoup plus rapidement qu'on le pensait et leur impact est pire que ce qu'on pensait. Donc, malheureusement, la question n'est plus seulement de savoir comment on va réduire les gaz à effet de serre. Ce sur quoi il faut maintenant tabler, c'est de savoir, et ici au Québec entre autres, mais partout dans le monde, c'est de savoir comment on va faire pour faire face à ces changements climatiques. Parce que les épisodes de météo extrêmes, il va y en avoir de plus en plus, un peu partout à travers le monde, et ça va faire mal à l'économie, ça va faire mal à toutes sortes de secteurs. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en prémunir? Et ça, je trouve que là-dessus, nos gouvernements sont très lents, sont très faibles. J'espère que pendant la campagne électorale, nos gouvernements vont nous... Enfin, les partis politiques vont nous expliquer comment ils vont faire pour renforcer les infrastructures, pour renforcer les routes, etc., pour prendre des mesures pour que on n'ait pas de grands problèmes agricoles, et ainsi de suite, dans les années qui viennent, parce que je crois, malheureusement, que on va en subir l'impact de plus en plus dans les années qui viennent.
Merci beaucoup, Loïc. À demain. Un bon week-end. À lundi.
Oui, si tu veux demain, mais ça serait mieux lundi.
Oui, c'est ça. Salut, Loïc. Bon week-end.
Salut.
Au revoir.